Monsieur le Président, je vous remercie. Je ne pense pas que je sois courageux, je suis carrément téméraire, que c'est de la témérité d'oser conclure ces travaux, et surtout après Jacques Delors. Je trouve que je n'ai pas de légitimité, Monsieur Delors, de parler après vous. J'éprouve, vous le savez, en ce qui vous concerne, une énorme admiration, et je suis tout petit par rapport à ce que vous avez fait. J'aurai l'occasion de vous le redire dans d'autres circonstances, mais vous savez que je partage au moins avec vous une préoccupation qui est celle de l'humanisme et qui fait que vous avez toujours placé l'homme au-dessus de l'économie, ou en tout cas vous pensez que l'économie doit être au service de l'homme, et de ce point de vue-là, vous me permettrez d'être très modestement votre disciple. Et puis c'est de la témérité aussi de conclure une journée comme celle-ci qui a été très dense, très riche. Je vais d'ailleurs être fatigué d'entendre un certain nombre de discours. Moi, je ne suis ici qu'un témoin. J'ai fait, comme M. Delors, toute la journée, je n'ai fait qu'écouter. C'est d'ailleurs remarquable des personnages comme vous qui sont capables de passer une journée entière à écouter. Moi, j'ai connu beaucoup de gens, notamment dans le monde politique, qui ne viennent que pour parler. Ah non, mais je n'invente rien. Au premier World Forum, il y a 3 ans, au premier World Forum, je reçois un coup de téléphone d'une personnalité politique qui me dit « Je viens quand ?» Ben, on lui répond que cette personne pouvait venir quand elle voulait. « Oui, mais je parle quand ?» On lui a dit « Vous ne parlez pas. » Donc elle n'est pas venue. Parce que, En revanche, le président du Conseil régional est venu une journée complète écouter. C'est une grande distinction que je fais dans le monde politique. Ceux qui sont capables d'écouter les autres et ceux qui parlent sans avoir entendu préalablement ce qu'il y avait à dire. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Je n'ai été que le témoin de vos réflexions. Je suis là pour vous faire part en quelque sorte des miennes, de mes réactions, de la façon dont j'ai vécu cette journée. Je voudrais dire que vous avez eu du nez. Vous vous êtes placé, vous avez choisi votre date dans une actualité qui est tout à fait remarquable. Il y a 3 éléments dans l'actualité cette semaine qui donnent une pertinence particulière à vos travaux. Premier élément d'actualité, il a été évoqué ce matin par Pierre Calame, c'est le prix Nobel d'économie qui a été décerné au début de cette semaine à 2 universitaires américains. En général, les prix Nobel d'économie, on les donne à des Américains. Il y a un Français qui a eu le prix Nobel d'économie une fois, mais ça devait être un hasard. 2 Américains, une femme pour la première fois, Elinor Ostrom, et un homme, Oliver Williamson. Et on leur a donné le prix Nobel d'économie pour leurs travaux, en gros, sur la gouvernance. Et on leur a donné le prix Nobel d'économie parce qu'ils ont osé affirmer une chose qui est révolutionnaire, c'est que finalement, l'homme est plus important que le marché. Et qu'entre l'État et le marché, ben, y a place pour des systèmes, pour des individus qui sont capables de mener un certain nombre de choses ensemble. Vous savez que les travaux de Madame Armstrong se sont fondés sur l'observation des populations qui entouraient les lacs dans lesquels il y avait du poisson. Si jamais ces lacs avaient été soumis à la loi du marché, on aurait vidé les lacs des poissons simplement pour avoir le gain immédiat le plus important possible. Et si jamais on avait administré ça de façon coercitive, bien évidemment, on aurait braconné. À partir du moment où ils avaient à gérer la ressource, ils l'ont très bien géré eux-mêmes. Je ferme la parenthèse, mais simplement, je crois que cette anomalie dans la délivrance du prix Nobel d'économie va tout à fait dans le sens de vos travaux. Deuxième fait d'actualité, alors celui-là, il vient de sortir, c'était hier dans le Wall Street Journal, qui n'est pas le journal le plus à gauche des États-Unis, loin s'en faut, et le plus éloigné des milieux économiques. Et, cher Président, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le Wall Street Journal a dit que les 23 plus grandes banques américaines vont distribuer cette année, sous forme de salaire, de bonus, de primes, de stock options, la bagatelle de 140 milliards de dollars de rémunération. 140 milliards de dollars, elles n'auront jamais donné autant. On sort, paraît-il, de la crise, en tout cas de la crise financière peut-être, de la crise économique c'est autre chose, de la crise sociale, on n'en a pas encore vu le bout. On sort de cette crise financière parce que les États, et notamment l'État américain, a donné des sommes qui sont des sommes quand même faramineuses aux banques, et cette année, elles vont battre les records de rémunération. Alors 140 milliards de dollars, ça ne veut rien dire. Si vous dites ça devant des gens moins informés que vous, ils n'ont aucune notion de ce que ça représente. 140 milliards de dollars. Donnez 1 ou 2 éléments de comparaison. ça fait 1 million de SMIC annuel. Ça fait à peu près 20 fois le produit intérieur brut d'un État comme Madagascar qui compte 18 millions d'individus. Voilà ce que ça fait, 140 milliards de dollars. On peut en faire des choses, hein, avec 140 milliards de dollars. Et puis le troisième élément, le troisième élément d'actualité, il est encore à venir, il va arriver demain. Alors si jamais vous voulez circuler dans un chef-lieu de région, je vous conseille de le faire à pied. Vous aurez du mal à le faire en voiture, compte tenu de ce que j'ai entendu dire sur l'ampleur que devaient prendre les manifestations agricoles qui sont organisées demain. Et donc, je vais m'arrêter sur ce troisième point, si vous le voulez bien, parce que c'est le plus en rapport peut-être avec notre préoccupation sur la ruralité. Ces trois éléments, finalement, on voit bien qu'ils correspondent à une crise, à une même crise, qui est une crise de sens. Et le troisième, il est vraiment, vraiment une crise de désarroi, qui est le désarroi que connaissent nos agriculteurs aujourd'hui. Je comprends, hein, tout à fait, parce que le problème, je pense qu'on est capable, M. Brichard, de dire aux gens, ça va être dur. Je pense qu'on est capable de leur dire, vous savez, il va y avoir des efforts à faire. Mais il y a un problème qui manque aujourd'hui, c'est la vision qu'on a du monde agricole. Moi, je ne sais pas quelle est la vision que nous avons de l'agriculture. Je ne sais pas quelle est la vision de l'Europe sur l'agriculture. Je sais quelle est la vision des uns et des autres, et encore. Et je pense que ce qui nous manque, c'est une vision. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'agriculture européenne? Qu'est-ce qu'on veut faire de l'agriculture française? On peut même se poser la question de savoir quelle agriculture nous aurons demain dans le monde. Je rappelle au passage, on l'a oublié, qu'il y a encore 1 milliard de personnes qui sont aujourd'hui des personnes souffrant de malnutrition dans le monde, et que sur les 2,5 milliards d'habitants de cette planète qui vont venir dans les 40 années qui viennent, l'essentiel, pratiquement la totalité d'ailleurs, se trouveront dans des zones qui sont des zones qui déjà aujourd'hui sont soumises à ces phénomènes de la faim. Alors ça nous amène à tous les débats qu'on connaît aujourd'hui, les débats notamment sur la régulation. Mais sur la crise du lait que je connais un peu moins mal que l'autre, je rappelle qu'il a fallu que c'est l'État français qui a commencé la dérégulation. Vous savez comment c'est venu l'année dernière? Quand la DGCCRF s'est aperçue que nous avions conclu, 10 ans auparavant, un accord qui revenait à fixer le prix du lait finalement entre une discussion entre les producteurs, les transformateurs et la grande distribution, a dit qu'il s'agissait d'une entente et y a mis fin. Enfin bref, je passe. On voit qu'en termes de régulation, nous avons aujourd'hui quelquefois des fautes qui sont commises et qui sont commises de notre propre fait. Je ne vois pas, je le dis très très clairement, je ne vois pas un monde dérégulé en ce qui concerne l'agriculture. Je ne le vois pas non plus sur la finance d'ailleurs. Mais s'il y a un secteur qui mérite de la régulation, c'est bien le secteur agricole. C'est un secteur qui est extrêmement volatile, où les prix peuvent monter ou peuvent descendre. Et quand en plus de ça, la spéculation financière vient s'en mêler, vous avez le résultat que nous avons connu avec les cours du blé qui ont flambé il y a 18 mois et qui sont aujourd'hui à Chicago au tiers de ce qu'ils étaient il y a 1 an et demi. Et donc nous avons besoin de cette régulation, qu'elle se fasse par les stocks, qu'elle se fasse par les prix, d'une façon ou d'une autre. Mais au-delà de cette question de régulation, de cette absence de vision qu'a l'Europe, permettez-moi de m'interroger aussi sur la vision que le monde agricole a de lui-même. Parce qu'il ne faut pas non plus toujours rejeter la faute sur les autres. Quelle est la vision que les agriculteurs ont d'eux-mêmes et ont de leur avenir? J'avoue que je n'en sais rien. Que veulent les agriculteurs, à part évidemment l'intervention de l'État? Je pense qu'il y a des débats internes qui aujourd'hui encore ne sont pas tranchés. Et ce qui est compréhensible, parce que le monde agricole est aujourd'hui de plus en plus divers, malheureusement c'est aussi contre-productif. Il y a un besoin d'une vision qui émane du monde agricole lui-même. Et de ce point de vue-là, je ne peux constater que moins il y a d'agriculteurs et plus il y a de divisions. Parce que les agriculteurs aujourd'hui, que ça nous plaise ou non, c'est un constat que je fais. Un constat que je fais avec regret, c'est qu'ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires dans le pays. Il y a 60 ans, il y avait un actif sur 4 qui travaillait dans l'agriculture. Aujourd'hui, on est à 1 sur 25. Et même probablement un peu moins. Et non seulement les agriculteurs sont devenus minoritaires en France, ce qui explique évidemment l'affaiblissement de leur poids politique, mais ils sont maintenant en passe, et peut-être le sont-ils déjà, d'être minoritaires dans l'espace rural. Vous avez évoqué tout à l'heure la ruralité, le fait qu'il y avait Au fond, c'était M. Dumont qui a évoqué les termes qui étaient les termes démographiques. D'une certaine façon, l'exode rural, le terme qu'il réfute, je le conçois, mais la dépopulation rurale était en train, tout au moins dans une certaine partie du territoire, de s'atténuer et même de s'inverser. Mais ça veut dire que les agriculteurs ne sont plus majoritaires dans leur territoire rural. J'ai été l'élu d'une circonscription agricole, maire d'une grande métropole de 5000 habitants, chef-lieu de canton, Saint-Paul-sur-Ternoise, territoire rural, la plus importante commune de ma circonscription, 5000 habitants. Et j'ai vécu dans un village juste à côté, 350 habitants, pendant un certain temps. Il n'y avait plus que 3 agriculteurs dans ce village. Il y avait 400 habitants, 350 à 400 habitants, 3 agriculteurs. Et donc, bien évidemment, les relations entre les résidents ou les habitants, peu importe comment vous les appelez, le monde agricole, ne sont plus tout à fait de même nature. Et il y a un malentendu et un fossé qui se creuse, quelquefois, y compris dans le monde rural, avec cette incompréhension que l'on évoque. C'est vrai que dans les sondages, il y a une image qui est plutôt bonne du monde rural, il y a une image qui est plutôt bonne des agriculteurs. Mais la bonne image que la population a des agriculteurs, c'est une image de l'agriculture qui n'existe plus. Autrement dit, on rêve du passé. On a cette espèce de rêve du jardin d'Éden qui n'est plus tout à fait celle qu'on connaît aujourd'hui. Et il y a ce que la COFREMCA baptisait dans une étude qui était une étude assez lourde, une légitimité perdue du monde agricole par rapport à l'opinion d'une façon générale. D'où le mal-être qu'évoquait Henri Brichard tout à l'heure, que je comprends tout à fait. Mais là, les responsabilités sont partagées. Permettez-moi de vous raconter une petite anecdote, ou plutôt deux. En 1996, un responsable agricole pour lequel j'ai une profonde estime, qui s'appelle Jean Salmon, qui a été vice-président de la FNSEA, qui était président de la Chambre régionale de Bretagne, et moi, nous avons monté dans le cadre du CIMA un colloque sur agriculture et environnement. C'était trop tôt, probablement. Nous avons dû subir, lui et moi, quelques remous dans la salle. En 1996, au moment où l'on élaborait une loi d'orientation agricole qui n'a pas vu le jour parce que le président de la République a eu la bonne idée de dissoudre l'Assemblée nationale, j'avais pensé que l'on pouvait essayer de bâtir une loi en intégrant le consommateur. D'ailleurs, c'est pas neutre, hein. Si aujourd'hui encore, on parle du ministère de l'Alimentation avant de parler du ministère de l'Agriculture, c'est pas neutre. C'est-à-dire que la légitimité, on va la trouver du côté du consommateur. Et j'avais naïvement pensé que l'on pouvait peut-être bâtir une loi agricole en partant du consommateur. J'ai reçu une lettre injurieuse, d'une grande organisation agricole que j'ai gardée, en me disant qu'il était scandaleux, je donne les mots, qu'un ministre de l'Agriculture attache de l'importance au consommateur roi. Vous voyez le mépris du mot consommateur roi, et que j'étais là pour m'occuper des producteurs et pas des consommateurs. Je pense que depuis, la personne qui avait osé signer cette lettre a compris, d'ailleurs elle tient des propos qui sont des propos tout à fait inverses, mais c'est pour vous montrer qu'il y avait, à cette époque, c'est pas vieux, hein, c'est il y a une douzaine d'années, qu'il y avait à cette époque un fossé qui s'était creusé par incompréhension, qui était une incompréhension réciproque. Et je pense qu'aujourd'hui, il est tout à fait clair, il est tout à fait net, et si les agriculteurs ne le font pas, ils seront grandement coupables, d'intégrer toutes les attentes de la société dans la vision qu'ils doivent développer de l'agriculture. Et parmi ces attentes, il y a bien entendu l'environnement. J'irais même au-delà, il y a le développement durable, ce n'est pas la même chose. Parce que j'entends beaucoup mélanger environnement, développement durable, on parle de choses comme ça et c'est un peu n'importe quoi. On a tendance à aller quelquefois très très vite, le développement durable c'est tout à fait autre chose. Si je m'en réfère aux travaux de Mme Brundtland il y a maintenant 22 ans, le développement durable c'est 3 piliers. C'est d'abord l'économie. Dans le mot développement durable, il y a développement. Alors on peut être contre le développement et rêver comme certains en rêvent d'un retour en arrière. Mais je rappelle quand même qu'il y a des besoins primaires qui ne sont pas satisfaits dans le monde. Le besoin de se nourrir, le besoin de se vêtir, le besoin de se loger, ça nécessite du développement. Et donc le premier pilier du développement durable, c'est l'économie. Il faut pas, faut appeler un chat un chat, l'économie sont des entreprises. Les entreprises, elles ont besoin d'être rentables et donc de faire du profit. C'est pas illégitime à partir du moment où on le réinvestit. Ce qui peut être illégitime, c'est la façon de le partager. Le deuxième pilier, c'est le pilier social. Bien évidemment, il doit y avoir une équité entre le développement, entre le pilier économique et le pilier social. Et le troisième, c'est le pilier environnemental. Et au milieu de ces trois cercles qui se recouvrent, vous avez ce qu'on appelle le développement durable. N'oublions jamais cela, sinon on aboutit à un peu à n'importe quoi. on va résoudre, on va résumer plutôt tous les problèmes de la planète au réchauffement climatique. C'est important, c'est un élément à prendre en considération, mais il n'est pas le seul. Donc cette crise de sens que nous connaissons aujourd'hui, cette crise de désarroi que connaissent les agriculteurs, il faut l'inscrire dans une problématique de développement durable. Et donc il faut penser l'avenir, le présent et l'avenir de nos territoires ruraux dans cette politique de développement durable. Je vois que Monsieur le Président regarde sa montre. Non, je vais raccourcir. Simplement trois choses sur le développement durable. À qui doit-on s'adresser ? D'abord aux politiques. C'est une nécessité. Rien ne doit se faire sans la politique. Ça doit se faire avec. Il ne faut pas tout attendre du politique, mais le politique est nécessaire. Et en termes de politique, c'est valable pour l'agriculture. On a besoin d'une action politique qui soutienne, bien évidemment, le monde agricole, mais c'est valable pour les autres composantes de ce qu'est le territoire rural. L'agriculture est un des éléments constitutifs du territoire rural, il ne peut pas aujourd'hui être le seul. Et quand on parle, alors je voyais tout à l'heure qu'on s'indignait, à juste titre d'ailleurs, du fait qu'on ait remplacé la DATAR par la DIACT, c'est à peu près la même chose, enfin, sauf que la DATAR, à mon avis, avait un peu plus de moyens d'action que la DIACT aujourd'hui, mais l'aménagement du territoire, ce n'est pas une notion qui a disparu. Je dirais même que, à partir du moment où nous avons des mouvements tels que ceux que nous connaissons aujourd'hui, l'aménagement du territoire doit rester un élément d'une politique volontariste. Monsieur Delors disait tout à l'heure, le rural est un bien public. Encore une idée que je partage. Oui, je pense que le rural est un bien public. Mais un bien public, ça veut dire qu'on le gère avec la préoccupation publique. J'ai pas le sentiment, sans faire de polémique politique, que dans la gestion des services publics, on est aujourd'hui la préoccupation de l'aménagement du territoire. Pour moi, les services publics, bien évidemment, ils doivent être équilibrés, mais coller à la notion de service public les mêmes préoccupations que celles que l'on peut avoir pour la rentabilité d'une entreprise qui est sur le marché, c'est à mon avis un contresens. Et aujourd'hui, faire en sorte que des services publics soient amenés à quitter le territoire rural, c'est alourdir les handicaps que connaît le territoire rural. L'État doit montrer l'exemple. La collectivité publique doit monter l'exemple. C'est le cas pour les services publics, c'est le cas pour les infrastructures. Je ne suis pas certain non plus que l'instauration d'une taxe carbone, quels que soient les correctifs que l'on y ajoute, soit favorable à la mobilité et notamment aux territoires ruraux. Quant à l'accès à Internet, là encore, il y a un certain nombre de progrès à faire, et je n'ai pas non plus le sentiment que ces progrès-là soient accomplis. Et puis, au-delà de la politique, il y a l'engagement des acteurs locaux. Et vous avez eu deux exemples ce matin, celui de Bernard de Françu, qui a beaucoup de qualités, dont la principale est d'être un homme du Pas-de-Calais, bon, ça, c'est, qui en plus a voté autrefois, pas forcément pour moi d'ailleurs, mais était inscrit sur les listes électorales de ma circonscription. Bon. Mais ce qui vous a présenté ce matin, c'était quand même tout à fait remarquable. Et ce qui a été présenté par le professeur Pacciani sur ce qui est fait en Toscane montre bien le rôle que peuvent jouer les acteurs locaux. C'est d'ailleurs ce que nous nous efforçons de faire au World Forum à Lille, puisqu'on ne fait pas de théorie, on fait que de la pratique. Et on recueille des initiatives, des cas concrets de ce qui se fait dans le monde pour apporter une responsabilité à l'économie et apporter cette dimension sociale et environnementale, ce qui se fait au Brésil, aux États-Unis, au Canada, en Thaïlande, etc. Donc les acteurs locaux, le rôle des acteurs locaux est de mon point de vue fondamental. Et tout cela en commun, l'initiative qu'a pris M. De Françu ou l'initiative dont le professeur Pacciani a rendu compte, ce qu'il y a en commun, c'est l'innovation. On ne réussira pas à renforcer le rural sans innovation. Je pense que si on rêve du passé, on se trompe de combat. Je pense que l'avenir réside précisément dans l'innovation. Alors il y a un problème de principe. Est-ce qu'il faut ou non avoir confiance dans le progrès ? La tendance actuelle, enfin ce qui est chic, ce qui est politiquement correct, ce qui se dit dans les salons parisiens, c'est le progrès, c'est l'horreur. Ce qui est bien, c'est la marche arrière. C'est de revenir en quelque sorte au passé, d'idéaliser le passé en quelque sorte. J'ai, à titre personnel, le sentiment contraire. Ce qui pose problème, bien évidemment, c'est l'utilisation qu'on fait du progrès. C'est-à-dire qu'avec avec le nucléaire, vous faites de l'électricité ou vous faites la bombe atomique. On peut faire des choses Avec Monsieur Nobel, vous pouvez décerner des prix ou vous pouvez faire de la dynamite. Donc, ce qui pose problème, c'est pas le progrès en soi, c'est l'utilisation qu'on peut faire du progrès. Deuxièmement, la question qu'on doit se poser, c'est le progrès, mais au service de quoi et au service de qui ? C'est toute la question du sens que l'on peut avoir. Et je pense que si on maîtrise bien ces deux paramètres, l'avenir du rural se trouvera dans l'innovation. Au niveau de la production, y compris de la production agricole, que je rappelle tout à l'heure, qui pour moi reste quand même fondamentale, avec aussi peut-être des innovations qui iront dans des productions durables. Je préside la section économique du Haut Conseil de la coopération agricole. Nous venons de pondre un rapport sur la chimie du végétal. Et on s'aperçoit qu'il y a des débouchés fantastiques, à deux conditions, bien évidemment. La première condition, c'est que les productions qui iront vers des destinations non alimentaires, bien, il y en a déjà, c'est le cas du chanvre, c'est le cas du lin, etc., mais à condition que ces productions ne viennent pas en concurrence avec les besoins alimentaires. Ce qu'on a dit il y a un an et demi, en disant « si jamais il y a la crise alimentaire, c'est à cause des biocarburants ». C'était un des facteurs. Mais on a bien vu que c'était la spéculation, le facteur principal. La deuxième condition, c'est que le bilan global environnemental soit positif. Il s'agit en quelque sorte, et je ne vais pas rentrer dans la directive REACH, etc., mais il s'agit en quelque sorte de substituer aux produits issus des hydrocarbures et qui vont devenir de plus en plus rares et de plus en plus chers, d'autres produits qui viennent, en quelque sorte, qui ne sont pas des produits fossiles, mais qui sont des produits renouvelables. Il y a, de ce point de vue-là, probablement des productions nouvelles, des innovations, qui peuvent permettre de trouver de nouveaux débouchés, de nouveaux fondements économiques aux territoires ruraux. Et puis la dernière innovation, et je terminerai par là, c'est celle que j'ai retenue de vos travaux, c'est que le rural peut être un modèle d'innovation en termes de mode d'organisation. Ce fameux vivre ensemble que vous avez évoqué à plusieurs reprises. Et c'est vrai qu'on est dans un monde bizarre quand même. Vous pouvez vous connecter sur Internet ce soir, vous êtes en ville, dans un grand immeuble de 20 étages, vous êtes au 15e, vous pouvez vous connecter et avoir des relations avec des gens qui sont situés à Rio de Janeiro, à Tokyo, ou même dans un village perdu de l'Inde. Et votre voisin de palier, juste à côté, ou celui qui est au-dessus, ou celui qui est en dessous, il est peut-être en train de mourir, et vous ne le savez pas, et vous vous en êtes désintéressé. Cette notion de perte de solidarité est une notion importante. Et je ne partage pas tout à fait l'avis d'Henri Brichard. J'aime bien, qui en plus, c'est presque un voisin. Il est de la Tirache. Bon, il n'a qu'un défaut, il n'est pas de la Tirache du Nord, il est de la Tirache de l'Aisne. Mais bon, on va lui pardonner, personne n'est parfait. Mais la responsabilité et la solidarité, pour moi, ça va de pair. Et plus on est responsable, plus on doit être solidaire. Je pense que le vivre ensemble aujourd'hui, c'est ce que disait Gérard Pelt, c'est un territoire, un projet, une démarche participative. Comme disait aussi Paul Way, il n'y a pas de territoire sans projet. C'est autour de ça qu'on doit bâtir probablement nos termes de solidarité. En tout cas, c'est la question que vous avez posée lors de vos assises, question dont on n'a pas apporté la réponse, des éléments de réponse, mais pas la réponse, bien évidemment. Mais pour terminer sur cette notion de responsabilité, de solidarité, je ne peux pas m'empêcher de vous livrer une phrase, je vais dire d'un de mes deuxièmes maîtres après Jacques Delors, qui est Antoine de Saint-Exupéry, et qui dans... Ah, c'est pas mal. On peut partager ça aussi. On en discutera. Par ordre alphabétique, on met Jacques Delors d'abord. Mais Saint-Exupéry, dans un bouquin qui s'appelle « Pilote de guerre », chapitre 24, a toute une réflexion sur ce qu'est la responsabilité. Et il dit « Chacun est seul responsable ». Chacun est responsable de tous. Chacun est seul responsable de tous. Moi, c'est une phrase qui m'a fait « Chacun est seul responsable de tous ». Et je pense que cette phrase-là, elle devrait être à la base des solidarités que l'on peut développer dans le monde, et à commencer par le monde rural. Et donc, chacun sur son sol est responsable de l'avenir de nos civilisations. Merci, Monsieur le Président.